vous rappellerez que Gaétan Barrette avait donné à peu près 2 ans au médecin de famille pour prendre en charge un certain nombre de patients dans ce qu'on a appelé le projet de loi 20. Or, les médecins de famille n'ont pas livré la marchandise, donc ils sont en défaut actuellement. On a des discussions avec la FMOQ. J'aimerais mieux arriver à une entente, parce que c'est important que tous les Québécois soient pris en charge. Puis il y a vraiment un bon nombre de médecins de famille qui prennent pas en charge beaucoup de patients. Donc, l'idée, on a obtenu des chiffres de la RAMQ médecin par médecin. Donc, c'est important de le dire. Là. Il y a des médecins qui font le travail comme il faut puis qui prennent en charge un bon nombre de patients. Puis, il y en a qui font pas la prise en charge qu'ils devraient faire. Donc, là, il faut voir avec la FMOQ qu'est-ce qu'on fait avec ces médecins-là. On va regarder ça aussi avec chaque PDG de CIS ou de SUS. Mais actuellement, il y a vraiment un problème de prise en charge. Ça fait que il y a des patients qui sont obligés d'aller à l'urgence, aller engorger les urgences. Donc, ça pourrait aller jusqu'à un projet de loi.
Ça, c'est M. Legault, François Legault, ce matin. Donc, qui était en impromptu de presse ce matin, au lendemain de son discours de lancement pour lancer la nouvelle session parlementaire. Il était assez direct envers les médecins de famille. Puis, je sais que ça vous touche en passant, là. Hier, tu nous apprenais, Joe, que toi, personnellement, présentement, t'as pas de médecin de famille. Tes enfants en ont un, t'en as pas. Il a donc carrément accusé ce matin les médecins omnipraticiens de ne pas avoir livré la marchandise. Temps moyen d'attente actuellement pour quelqu'un qui veut obtenir un médecin de famille au Québec, 599 jours. On va en parler avec donc le président directeur général de la Fédération des médecins omnipraticiens qui se dit déjà ouvert, bien sûr, à collaborer avec le gouvernement du Québec, le docteur Louis Godin qui est avec nous. Docteur Godin, bonjour.
Oui, bonjour.
Bon, qu'est-ce que vous répondez à ça d'abord quand vous entendez le premier ministre du Québec qui dit que vous n'avez pas livré la marchandise? Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ben, écoutez, on a livré quand même au-dessus de 1,1 million de Québécois qui ont trouvé un médecin de famille là depuis les 4-5 dernières années. On l'a fait dans un contexte difficile. On l'a fait à travers la pandémie. On l'a fait alors qu'on nous a promettait d'avoir des infirmières auxiliaires, des infirmières pour nous aider à prendre des patients en santé mentale, d'avoir des infirmières pour nous aider en GMF. Alors qu'on n'a pas eu tout le support qui nous était annoncé. On nous avait promis qu'on nous libérerait du temps dans les établissements, qu'on aurait moins besoin de travailler à l'hôpital. On n'a pas eu cet allègement-là de notre tâche à l'hôpital. Donc, on a fait une grande partie du travail. On est conscient qu'il y a encore un problème. Là. Je vous dirais, si on n'essaie pas de nier ça, il y a des Québécois qui cherchent un médecin de famille, puis il faut trouver une façon d'améliorer cette situation-là. On est en discussion actuellement avec le gouvernement. On a mis différentes approches sur la table. On espère s'entendre. Et si le gouvernement choisissait la voie de l'obligation, ben je pense que c'est celle qui va donner le moins de résultats. Ça, c'est clair.
Mais est-ce que, dans le fond, je comprends, Dr. Godin, que de votre côté, vous dites que c'est le gouvernement qui n'a pas livré la marchandise? Parce que vous dites, on nous avait promis ci, on nous avait promis ça, on nous avait dit que... Donc, le gouvernement dit que c'est vous qui ne participez pas ou qui ne livrez pas la marchandise, mais dans le fond, vous lui retournez la
reproche. En fait, ce que je lui dis, c'est lorsqu'il me dit que tout est du côté des médecins de famille, faut faire attention. Vous savez, là, il va se livrer à une bataille de chiffres avec nous à l'intérieur de ça. Moi, je sais sur le terrain que les médecins de famille travaillent très fort. On nous compare toujours avec le reste du Canada, mais c'est toujours le même problème qu'on répète depuis des années. L'activité des médecins de famille au Québec est beaucoup plus large qu'ailleurs au Canada. On travaille beaucoup plus à l'urgence, à l'hôpital, faire de l'obstétrique. C'est une caractéristique de la médecine familiale au Québec. Et en plus de ça, on sait qu'on manque de médecins de famille. On fait face à une vague de départ à la retraite. Là, on le voit ici dans la région de Québec. Là, c'est très, très problématique, cette situation-là. Et dès qu'on ne réglera pas cette situation-là, on va toujours avoir un grand défi devant nous. Ce qu'on essaie de trouver, nous, à court terme, c'est y a-t-il des façons de donner un accès à ces gens-là qui n'ont pas un médecin de famille pour qui n'est pas justement à se présenter à l'urgence. Mais le problème de fond va demeurer qu'il va falloir à un moment donné qu'on ait suffisamment de médecins de famille et qu'on regarde attentivement les chiffres. Et vous savez, ce fameux paradigme qu'on dit que les médecins de famille travaillent 2 jours, 3 jours par semaine, c'est complètement faux, ça. Allez dans les cabinets, allez voir ce qui se passe. Puis malheureusement, souvent le médecin, quand il n'est pas dans son cabinet, c'est parce qu'il est à l'hôpital en train de travailler auprès soit des patients à l'urgence ou des patients hospitalisés.
Je conteste pas ce que vous dites. Par contre, puis vous me corrigerez si je suis dans le champ, OK? Moi, je suis juste un utilisateur du système de santé. Je suis pas un expert. Je suis pas là-dedans non plus, là. Mais, par exemple, je donne un exemple comme ça. Le samedi matin, mettons, là, y a-tu moyen d'en voir un, des fois, un médecin de famille? Je sais qu'il y a certaines cliniques, mais c'est pourquoi c'est difficile, par exemple? On a l'impression des fois que c'est difficile, en dehors de certaines heures, du lundi au vendredi, de voir un médecin de famille. Y a-tu moyen, si je vous pose la question, dans quel secteur vous pourriez faire votre bout? Est-ce que ce serait dans le nombre d'heures, justement, de pratique? Y aurait-tu quand même un moyen que les médecins fassent un peu plus?
En fait, ce qu'on veut faire, c'est retravailler notre façon d'organiser nos horaires et notre accessibilité. Plutôt, je vais vous donner un exemple. Plutôt que donner tes rendez-vous là pour les trois prochaines semaines, faire comme beaucoup de médecins ont commencé à le faire, gardons quelques plages à chaque jour pour de tes patients ou des patients qui n'ont pas de médecin de famille qui auraient besoin d'aide. Il n'y aura pas de problème, là, ils vont être occupés ces plages-là parce qu'il y a de la demande. Il faut revoir notre façon, là, je veux dire, d'offrir nos services par rapport à ça. On sait qu'il y a déjà beaucoup de médecins qui le font. On appelle ça de l'accès adapté, mais il faut étendre ça. C'est sûr que ça nous prend de l'aide, là. On manque de médecins, donc ça nous prend d'autres professionnels pour pouvoir nous dégager de certaines tâches pour qu'on puisse s'occuper des tâches qui sont spécifiques aux médecins de famille. On parle de super infirmières, on parle d'infirmières cliniciennes. Malheureusement, il est prévu dans le programme GMF qu'on ait un certain nombre d'infirmières, mais là, à cause de la COVID, à cause de la pénurie d'infirmières, on a retiré les infirmières de ces milieux-là pour les retourner à l'hôpital parce qu'on avait des urgences à combler là. Mais il faut travailler sur un peu de tous ces aspects-là. Et c'est comme ça qu'on va réussir à améliorer l'accès.
Mais sur votre point, sur l'importance, la pertinence d'avoir de l'aide d'autres professionnels qui vont vous donner un coup de main, certains diront, Dr Godin, que ça a été très, très long avant que les fédérations de médecins acceptent d'élargir les pouvoirs, les responsabilités des infirmières, des super infirmières, parce que certains diront que les médecins voulaient protéger leur chasse gardée aussi.
Mais ça, c'est encore un autre élément là qui est souvent rapporté, mais qui est loin d'être vrai. Là. Nous, là, comme groupe, on a toujours dit on va prendre avec plaisir tous les autres professionnels qu'on va vouloir bien nous donner pour venir travailler dans nos cliniques, dans nos cabinets, pour qu'ils viennent nous donner de l'aide, parce qu'on sait que c'est la façon d'augmenter notre offre de services, c'est la façon d'utiliser le mieux les compétences de tout le monde. Mais globalement, actuellement, là, on le voit dans le domaine de la santé, on a une importante pénurie partout. On l'a vu avec les infirmières, ça a amené l'installation du fameux TSO. On a vu ce que ça l'a donné pour les infirmières. Démobilisation, ils y ont quitté, je veux dire, ça l'a donné des résultats tout autres que ceux qu'on espérait. Et là, on voit poindre cette même approche-là, là, des patients supplémentaires obligatoires là, qu'on donnerait à certains médecins parce qu'on déciderait que eux, ils ne travaillent pas suffisamment, alors qu'on sait que les profils de pratique des médecins québécois sont identiques, se comparent avantageusement avec les profils de pratique des autres médecins de famille ailleurs au Canada, soit en termes d'heures travaillées, en termes de jours travaillés.
Est-ce que vous avez des chiffres à cet effet-là, Dr Godin?
Y a-t-il des 16 heures par jour? Oui, chez les médecins, les pratiques, y a-t-il des 16 heures par jour comme chez les infirmières, par exemple?
Écoutez, là, je veux dire, nous autres, on a des médecins qui travaillent 24 heures par jour, là. Je veux dire qu'ils font des 24 heures dans certaines salles d'urgence à l'intérieur de ça. On a de la couverture, nous, qui est 24 heures par jour. Le médecin qui est de garde, qui fait sa semaine d'hospitalisation, bien naturellement, il est de garde le soir, puis il est de garde la nuit, puis il peut être appelé à se déplacer. Là. On travaille pas de 8 à 4, loin de là. Les derniers sondages que l'on a fait nous disent que les médecins de famille travaillent en moins de 45 heures par semaine. Donc, 45 heures par semaine, là, tu fais pas du 8 à 4 du lundi au vendredi.
C'est pas énorme non plus là, pour une profession comme ça, Dr Godin. Moi, il y a des gens qui nous écoutent qui en font 50, 60 en masse.
Ben, 45 heures en moyenne, puis vous rajoutez tout l'aspect administratif qui se greffe à ça, ça commence à être une semaine de travail. Là,
ça veut dire qu'il y en a qui en font moins. Si c'est la moyenne, il y en a qui en font moins. Là.
Ben oui, c'est sûr. Ça, je vous dirais pas. Jamais je vous dirai qu'il n'existe pas au Québec quelques médecins qui ont une charge de travail qui est moins importante. Il y a aussi une question de liberté de choix comme n'importe quel autre individu. individu peut décider de travailler moins, mais en même temps, c'est bien clair que même si demain matin, tu imposais à ces gens-là un certain nombre de patients, ce qui reste le plus d'arrivées, c'est que carrément, ils vont soit cesser de travailler ou ils les verront tout simplement pas. C'est des gens qui acceptent déjà d'avoir une rémunération moindre parce que on est payé, nous, essentiellement à l'acte. Donc, tu as des patients, t'es payé. T'es pas de patients, t'es pas payé. Donc, à l'intérieur de ça, c'est pas une avenue qui nous semble très, très porteuse là à l'intérieur de tout ça, là.
Si on se met en mode solution, là, je vais prendre mon exemple à moi, parce que Jérôme le disait, on en a parlé hier. Moi, je n'ai pas de médecin de famille parce que j'ai été puni, docteur Godin, parce que j'étais pas assez malade. J'avais une médecin de famille, j'ai été trop longtemps sans aller la voir parce que j'avais pas besoin d'aller la voir, j'étais en santé. Là, ça fait un an que j'ai des petits soucis, je voudrais voir, mais j'ai pas de médecin de famille. Est-ce que c'est normal que les gens qui sont en santé se voient comme éjectés de liste d'un médecin de famille?
Je vous le répète, là, c'est sûr qu'il faut trouver une solution pour que les Québécois qui veulent voir un médecin de famille puissent en voir un dans des délais raisonnables. On est là, là. Je dirais, j'essaierai jamais de vous convaincre qu'on ne doit pas chercher à faire ça. C'est quoi les solutions? Il y a deux aspects. Il y a un aspect à court terme. Comment on peut réorganiser les pratiques, par exemple, comme je vous mentionnais tout à l'heure, pour que vous, qui n'avez pas de médecin de famille, on vous dit, parfait, tu peux t'adresser à telle clinique, on va te voir là, tu pourras y aller, je veux dire, et puis on va au moins te donner un accès. Puis probablement, tu as des bonnes chances que le médecin qui va te voir va peut-être décider que tu vas devenir son médecin de famille, qui va devenir ton médecin de famille à l'intérieur de ça. Mais à moyen terme, il y a un autre élément qu'il faut faire, là. Il faut corriger ce manque de médecins de famille-là, là. On a 425 postes qui sont restés vacants depuis les 7 dernières années au Québec. Ça, c'est des postes qu'on avait rendus disponibles parce qu'on savait qu'on en avait besoin, puis on n'a jamais été capable de les combler. Donc ça, c'est des médecins de famille qu'on aurait dû avoir, que l'on n'a pas, et ça, va falloir corriger cette situation-là. Puis cette année, on a eu notre pire année des dernières années. Cette année, c'est 70 postes de formation pour devenir médecin de famille qui sont restés vacants. Donc, on se retrouve avec une pénurie là qui risque de se perpétuer. Il faut rebâtir l'attractivité de la médecine familiale. Puis là, je vous cacherai pas que c'est pas en annonçant qu'on va peut-être passer un projet de loi pour obliger les médecins à en faire plus, qu'on va être très attractif.
Ouais.
On a déjà vu ça là dans le passé, là, en 2014-2015 avec la loi 20. Le ministre Barrette, du temps, avait laissé aller ces menaces-là. Le résultat que ça en a eu, on s'est retrouvé avec une baisse d'attractivité en médecine familiale. Ouais,
mais sont où les médecins? Sont où les médecins? C'est-tu qu'on les forme pas? Vous parlez de manque d'attractivité. Est-ce qu'ils se retrouvent au privé? Puis...
Non, mais je veux dire, c'est des gens qui vont choisir autre chose que la médecine familiale.
Qui font autre chose, OK.
Qui vont aller se spécialiser là en cardiologie, en chirurgie, dans une autre spécialité que la médecine familiale. Ouais, c'est là qu'ils vont. Puis vous savez, les étudiants en médecine ont cette capacité-là de pouvoir accomplir n'importe quel programme de formation. Ils ont les compétences là pour devenir aussi bien chirurgien, cardiologue que médecin de famille. Là.
Mais ma question à ça aussi, docteur Godin, c'est jusqu'à quel point le privé peut ou ne fait pas partie de la solution quand on parle de manque d'accès à un médecin de famille. Parce que moi, je suis pas contre les cliniques privées, mais tu sais, quand je vois des gens qui payent déjà des impôts, qui payent des abonnements déjà, qu'ils font pour que leur famille ait accès à de la médecine familiale, je me dis, on paye deux fois,
sûr.
Là.
Ben là, ça c'est sûr. Mais là, le gouvernement là pourrait prendre une décision là très très simple. Vous savez, le gouvernement peut limiter la non-participation ici au Québec. Là. Ils peuvent empêcher les médecins de travailler à l'extérieur du régime d'assurance maladie. Puis effectivement, vous avez raison. Il y a 350 médecins à peu près, là peut-être un peu moins, qui travaillent dans le privé, qui naturellement chargent des honoraires aux patients qui les consultent. Et ces gens-là ne sont pas dans le régime public. Le seul point positif que nous on trouve là-dessus, c'est qu'au moins ces médecins-là sont encore au Québec. Ouais. Mais c'est sûr que s'ils étaient dans le régime public, probablement, je veux dire qu'ils pourraient augmenter l'accès et ce, sans que les gens aient à payer deux fois, comme vous l'exprimez très, très bien. Mais en même temps, il faut regarder pourquoi ces médecins-là ont quitté vers le privé. Souvent, c'est parce qu'on leur a empêché de s'installer, je veux dire, dans la région où ils voulaient s'installer. soit parce qu'il ne voulait pas être soumis aux multiples contraintes là que tu as à la pratique ici en médecine familiale où tu dois faire tant d'heures à l'hôpital, tant d'heures ici, tant d'heures là. Ces gens-là ont décidé souvent de faire le choix de tout simplement sortir du régime d'assurance maladie pour avoir des conditions de travail qui étaient plus intéressantes. Mais ces médecins-là, on les a pas dans le régime public, vous avez raison.
Vous avez fait référence à la rémunération à l'acte, puis bon, je vais revenir là-dessus un instant, le fameux mode par capitation, donc d'avoir un load, si on veut, là, de patients, puis d'être payé en fonction de ça. Certains avancent qu'un mode mixte, donc une partie rémunération, une partie capitation pourrait être favorable. Est-ce que c'est là-dessus, entre autres, que vous avez des négociations avec le gouvernement?
Non, nous, on demande au gouvernement qu'on reprenne le plus rapidement possible les négociations là-dessus. On en a discuté largement avec nos membres. On a vu ce qui se passe ailleurs dans les autres juridictions. C'est le mode de rémunération qui est le plus adapté à la première ligne parce qu'il favorise le fait de prendre en charge plus de patients, de mieux organiser ta pratique de façon avec d'autres professionnels. Et c'est celui-là qui donne les meilleurs résultats. On l'a vu notamment en Ontario lorsqu'on a installé ce mode de rémunération-là. On a vu en quelques mois le taux d'inscription augmenter d'à peu près 15%. Donc, et on est en faveur de ce mode-là. On en discutait au début du mandat actuel de ce gouvernement-là. À un moment donné, on nous a dit, ben écoutez, c'est plus vraiment ça qu'on veut. Là, on aimerait mieux qu'on travaille sur l'accès rapide. Là, on va changer notre orientation. Bon, on a dit correct, c'est l'orientation du gouvernement. Là, on a repris les discussions un peu au printemps dernier et là, on nous a dit en juillet, ben non, c'est plus ça qu'on va discuter, on va discuter autre chose, on veut une autre approche. C'est sûr que ça prend un certain temps d'installer un mode de rémunération à capitation. Sur le plan technique, il y a des délais, là, ça prend facilement 18 à 24 mois. Mais sur le fond, on est en faveur d'un nouveau mode de rémunération pour les médecins de famille.
Bon.
Ça, c'est clair.
En terminant, Dr. Godin, le premier ministre a été quand même clair ce matin en disant le projet de loi, on va essayer d'éviter ça, on va favoriser la négociation. Là, avez-vous eu un signe de vie du gouvernement là-dessus? Savez-vous un peu c'est quoi l'agenda là-dessus? Parce que je pense que ça serait le fun d'éviter la loi.
On a des discussions là, encore à venir au cours des prochains jours avec le gouvernement. Puis nous aussi, on va chercher le plus possible d'avoir une entente parce que c'est la meilleure façon d'aborder cette question-là. Loi spéciale, là, peu importe, là, qui oblige, qui amène la coercition, c'est jamais bon. Ça aurait des effets là, catastrophiques sur le terrain, de désengagement des médecins, de d'épuisement. Il y a des gens qui vont quitter, il y a des gens qui devraient continuer à pratiquer, qui vont abandonner la pratique. On s'en va vraiment dans un mauvais film si on s'en va vers une loi spéciale. Puis nous, de notre côté, on va faire tous les efforts pour en arriver à une entente et arriver et à une solution à court terme pour les Québécois qui attendent, qui a juste le titre là, mérite d'avoir un médecin de famille. Et je veux dire aussi de trouver des solutions à moyen et à long terme pour régler cette fameuse question d'attractivité de la médecine familiale puis de manque de médecins de famille qu'on a actuellement.
Docteur Godin, merci beaucoup de nous avoir parlé.
Merci, au revoir. Merci.
Au revoir. Docteur Louis Godin, qui est le président directeur général de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, avec M. Legault, qui leur a carrément dit ce matin qu'il n'avait pas livré la marchandise au cours des dernières années. Quand même beaucoup de réactions via le 25-226. Il y en a du temps qui dit, comparez pas des médecins à quelqu'un qui travaille 60 heures dans une shop. La personne nous écrivait ça tantôt quand on discutait des semaines de travail. Docteur Godin nous dit la moyenne, c'est 45 heures par semaine. Ça veut dire qu'il y en a qui font peut-être 50, 55, mais il y en a qui font peut-être 30, 35. Je comprends le commentaire là, sur la pression des médecins. Tu sais, c'est une grosse responsabilité être médecin, mais je suis pas prêt à dire que ça veut dire qu'on doit niveler par le bas, parce que des médecins, ça coûte, ils ont plus de responsabilités, mais ça coûte aussi plus cher à former que d'autres emplois. Donc, quand l'État québécois forme des médecins, puis en passant, faut aller faire une spécialité aussi là, pour être omnipraticien. Il y a des coûts reliés à ça là. Quand l'État québécois forme des médecins, je pense qu'on est en droit d'exiger des semaines de plus de 35 heures.
Ça coûte plus cher d'étudier en médecine que d'étudier en philo, cela étant dit.
Oui, mais ça coûte cher de former des médecins quand même.
Oui, c'est ça, mais des dettes de 100 000, quand tu rien plus, ça existe aussi.
Non, mais je comprends, mais tu peux pas nier que l'État québécois...
Oui, ils investissent.
...investit dans ça aussi. Là. Puis je pense qu'ils sont bien rémunérés aussi. Je pense qu'on est en droit de dire que 35 heures pour un médecin de famille dans une période où on manque de... où quelqu'un comme toi pas de médecin de famille, pense pas qu'on soit trop exigeant non plus.
Sauf, mais moi, je vais être, soyons prudents sur la parce qu'il y a une moyenne d'heure de 45, ça veut dire que tu l'as dit qu'il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Mais dans ceux qui font moins, t'as assurément des slackers, là. Ça, je vais le dire, là.
Ben, c'est ça.
Mais t'as aussi beaucoup de médecins qui sont proches de la retraite, qui ont ralenti la cadence. Puis moi, ces médecins-là, j'aime mieux les avoir encore dans le système. Des médecins qui ont 70, 75 ans puis qui continuent à faire 20 heures par semaine, ils font baisser la moyenne. Ouais. Mais je suis content d'Abarouette qu'ils soient là.
Ben, d'accord avec
toi. C'est pas juste le nombre d'heures. Moi, je suis sensible à l'argument de l'attractivité. Mmh. Et quand le docteur Godin dit ça, je pense que c'est pas uniquement, je voyais quelqu'un qui est un peu cynique qui dit « Ah, on devrait faire un GoFundMe pour les médecins de famille. » C'est pas une question d'argent autant que valorisation. Parce que, tu sais, on a parlé de la valorisation des infirmières, ben oui, des préposés aux bénéficiaires, des enseignants, d'enseignants. Dites-vous que si vous prenez juste la profession médicale, Il y a deux fédérations. Là, pour les gens qui sont moins familiers, on entend parler de la FMOQ, donc la Fédération des médecins
de famille. Ça, c'est
Dr. Godin, ça. Les médecins de famille. Ouais. Vous entendez aussi parler de la FMSQ, la Fédération des médecins spécialistes, donc les médecines de spécialité. Les chirurgiens, les pédiatres. Et historiquement, au Québec, pas juste d'un point de vue salarial, juste d'un point de vue d'image, on a beaucoup, beaucoup valorisé la médecine de spécialité. Faisant en sorte qu'un étudiant en médecine qui décide de s'en aller pour être un omni, il y a beaucoup de ses pairs qui le regardent en disant comme oh ouais, comme si t'avais pas d'ambition, tu sais. Comme si t'avais pas d'ambition, alors que c'est essentiel, on a besoin d'eux autres.
Ben oui.
Ça, là-dessus, c'est vrai qu'il y a un petit travail à faire parce que c'est pas normal que d'année en année, il y a des cohortes où il y a tant de postes de disponibles en programme de médecine dans spécialisation en omni. Et qui restent libres. Ils ne sont pas comblés. Ils sont pas comblés.
Mais il y a aussi le phénomène, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tu sais, je veux dire, c'est pas le cas de tout le monde. Je vais te donner un exemple. Prends le docteur Bolduc, là, ton ancien collègue.
Oui.
Je dis ça, je ne sais pas si tu as travaillé directement avec, peu importe. Là. Docteur Yves Bolduc, je pense qu'il est tout le temps, je pense qu'il couche dans sa clinique parce qu'il pratique encore, lui, la médecine familiale à la clinique ici, là, à Sainte-Foy, la place de la Cité. Je pense qu'il est.
Amir Kadir, c'est un autre exemple aussi.
Ben, c'est ça.
Beaucoup.
Mais on va se le dire, il y en a aussi en médecine familiale qui choisissent ça pour la qualité de vie aussi, ce qui n'est pas totalement illégitime en passant. Là. Mais s'il y en a trop, ben c'est là qu'on se retrouve aussi avec... Ça peut contribuer aussi à créer le problème. C'est pas simple, cette affaire-là.
C'est juste
je
voudrais
vous dire qu'il y a une solution simple non plus.
Je suis pas certain que c'est la bonne cible. Ou en tout cas, c'est peut-être une des cibles, mais ça peut pas être juste cette cible-là.
Non, mais c'en est
si
une.
Si on parle du nombre d'heures travaillées, il y a l'organisation du travail, y a, le mode de rémunération par capitation, là... S'il y a une partie du salaire qui était reliée au nombre de patients que tu as d'inscrits sur ta liste, puis l'autre partie sur ta capacité à les traiter à l'acte, j'en aurais peut-être un médecin de famille.
Oui, parce qu'il y aurait un intérêt.
Il y aurait tout avantage augmenté. Puis le point, quand je parlais de mon exemple, ça, il me semble, il y a là une solution aussi qui n'est pas pire. Là. Tes patients qui sont en santé, qui demandent peu de suivi, comment ça se fait que tu es pénalisé au bout de 5 ans si on peut te voir leur médecin de famille et tu l'expulses de sa liste?
C'est ça qui m'est arrivé. Il y a quelques années, la secrétaire médicale était sur le point de déchirer mon dossier parce que ça faisait 5 ans que je parlais. Donc, étant donné que je ne consulte pas, on était sur le point de m'éliminer. T'sais, s'il y a quelque chose, il y a effectivement quelque chose d'un peu illogique. Puis en passant, moi, je pense que les cliniques privées peuvent faire partie de la solution. Par contre, moi, je suis pas contre, là. Je suis loin d'être contre ça. Mais en même temps, j'ai de la misère des fois à l'avaler. Quoi que je le fais en enseignement, en éducation. Je paye deux fois pour l'école. Mais on dirait qu'en santé, je me suis pas encore senti de me dire, garde, je vais prendre de l'argent sur lequel j'ai déjà payé presque 50% d'impôts, puis je vais me payer en plus un abonnement d'une clinique. Tu sais, qu'on soit obligé de faire ça, il y a quelque chose qui est un peu anormal. Quelque chose qui est... Puis c'est plus dur de prendre la décision... C'est parce qu'il y a une notion d'urgence aussi différemment. C'est différent de l'éducation. Quand tu décides de payer pour l'école, bon, il y a des raisons X, mais je comprends que des gens le fassent pour la santé parce que quand t'es malade, tu veux avoir accès à un médecin tout de suite. Tu sais, ton enfant fait de la fièvre, t'es frustré, pas de médecin de famille. C'est là probablement que tu te dis, garde, je vais payer de l'argent. Mais il y a quelque chose de frustrant à payer de l'argent sur lequel t'as déjà payé de l'impôt. Pour payer en double, aller voir une clinique privée, c'est comme contribuable. Des fois, tu te dis, ça n'a pas de Christi de bon sens. Arrêtez de nous dire qu'on a le meilleur système de santé au monde. C'est comme ça que ça fonctionne. OK. Ouais, juste avant la pause, je voulais juste vous teaser ce qui va se passer ce soir à la télévision de Radio-Canada. C'est, tu sais, il y a eu beaucoup de débats là, depuis le début de la campagne municipale à Québec, là, mais tu sais, c'est beaucoup des débats genre devant la Chambre de commerce. Donc là, il y a des gens membres de la Chambre de commerce qui s'en vont sur Zoom. 300 personnes pluguées sur Facebook. Après ça, là, hier, c'était le débat sur... il y avait le débat de la FPJQ. Ça, c'est des membres de la FPJQ qui questionnent tous les candidats, puis ça n'a pas une grande diffusion. Il y a eu le débat sur l'environnement. Je pense qu'il y en a de la CADEL aussi à l'Université Laval. Ce soir, je pense que c'est le débat qui va être le suivi par le plus d'électeurs. Les gens qui votent, les gens qui vont avoir leur mot à dire sur qui va devenir maire ou mairesse de Québec le 7 novembre prochain. En passant, on va être en onde le 7 novembre à compter 19h30 avec Jonathan, avec Anne Guérette. Je vais être là aussi avec Alex qui va être mis en onde. Philippe Rodricomo sur le terrain, notre collègue aussi. Voyons, tabarnouche, j'oublie son nom. Félix-Antoine. Comment puis-je oublier Félix-Antoine qui va être là aussi. Mais ce soir, c'est le débat de Radio-Canada. Puis je voyais tantôt l'espèce de teaser qu'ils ont posté sur Facebook. Écoutez bien ça. Radio-Canada Québec, ça va être animé par Bruno Savard en passant, très bon animateur. Radio-Canada Québec qui propose un débat des candidats à la mairie de Québec qui sort de l'ordinaire. En plus de la joute oratoire, nous allons tester leur connaissance de l'appareil municipal et leur proposer des mises en situation.
C'est chien, ça.
Comment réagiront-ils? C'est pas chien, c'est essentiel. J'adore ça.
Il y en a qui doivent trembler.
J'adore ça, puis c'est drôle. Regarde, je suis peut-être pas fin là, avec les candidats actuels à la mairie de Québec. Là. Puis vous auriez le droit de me dire là, si vous m'entendez. Landry, si t'es meilleur que nous autres, vas-y donc à la mairie. Mais je vais quand même vous dire que il y a quelques années avec des Jean-Paul Lallier, des Madame Boucher, avec j'aurais été moins inquiet pour eux autres. Mais là, c'est donc j'ai l'impression que j'écoute, je sais pas c'est quoi la question, mais là, j'ai l'impression qu'avec des recrues autour de la table, on va peut-être avoir des réponses assez peut-être assez drôles. Peut-être pas non plus, peut-être qu'ils vont agréablement nous surprendre, mais. Tu sais, il n'y a pas. J'allais dire, il n'y a pas tant d'expérience. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas d'expérience autour de la table, mais je prends tous les candidats, là. Je suis obligé de vous dire que je sens pas une maîtrise totale des dossiers de la ville chez tous les candidats. Comprends-tu ce que je veux dire? J'ai pas l'impression qu'ils sont tous en plein contrôle de leur dossier. Fait que ça peut donner peut-être
mais
des moments intéressants.
Tu sais, il faut que ce soit bien fait. C'est-à-dire que quand tu parles d'un maire ou d'une mairesse. Puis je vais le ramener même, mettons, à d'autres échelles. Là, t'sais, un ministre ou un premier ministre, c'est pas vrai qu'ils peuvent connaître tous les tenants et aboutissants. En fait, je m'attends pas à ce qu'ils soient dans la micro-gestion. Je m'attends à ce que s'il y a une situation qui leur est présentée par les gens qui connaissent ça, il y a une connaissance suffisante puis un jugement pour être capable de prendre des décisions.
Je suis plus ou moins d'accord. Madame Boucher, je t'annonce qu'elle était
le maire de Québec, là. Je m'attends pas à ce qu'il sache où la boîte à breaker sur un terrain de balle. Là.
Ouais, mais je pense que
je vais à l'extrême.
Une question,
non, non, mais tu sais, faudrait pas qu'ils disent. Alors, vous savez, si quelqu'un veut appliquer pour telle affaire, quel formulaire doit-il? Mais non. Si ce sont sur des grands principes du fonctionnement de l'administration municipale,
ok.
Mais faudrait pas que ce soit. Faudrait pas que ce soit cheap.
Parce
Puis je fais confiance à Radio-Canada là. Mais le faut pas que le but ce soit de les ridiculiser. Là.
Non, faut pas. Faut pas, non. Le but, c'est pas de les ridiculiser. Mais en même temps, faut pas avoir peur de poser ces questions-là. Puis, faut pas avoir peur de. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont avoir l'air fous dans ça. Moi, j'aime le concept qu'on nous annonce. J'ai hâte de voir.
Si c'est bien fait, oui.
Ce soir, mais la micro-gestion, je t'annonce la mairesse Boucher, là. Quand t'es arrivé avec sa pile de dossiers, là, m'a te dire une affaire, là. Elle, là, les micro-dossiers, là, elle te les maîtrisait pas à peu près parce que. Gérer une ville, c'est beaucoup ça aussi. Là. C'est bien beau, les grandes affaires, puis les grands projets, les grands signes, les grands ça, le carousel de M. Caramel, Bordeaux, puis c'est pis ça. Il reste qu'une ville, il y a une grosse partie micro-gestion. C'est un ordre de gouvernement qui est très, très proche du quotidien, très, très proche du concret. Je suis pas sûr que les gens s'attendent à avoir quelqu'un qui va être un leader ou une leader. Mais les histoires de vidange, puis les histoires de règlements municipaux, c'est important aussi. T'sais. Faut que, en tout cas, on verra ce que ça va donner.
Je veux juste dire, faudrait pas que ce soit un freak show.
Non, mais je pense pas que ça en soit un non plus. C'est pas son genre, Bruno, que ça devienne un freak show non plus. Donc, c'est présenté ce soir à l'heure du souper sur les ondes de Radio-Canada. Puis, si vous n'avez pas le temps, ben, on va regarder, bien sûr, le débat pour vous. Puis, on va vous présenter des extraits demain, puis on va en jaser avec Anne Guérette ce vendredi ici. Dans Trudeau-Landry, midi 55. Hey, Colin, le temps passe vite, en bonne compagnie. On...